Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur un objet qui fait partie de mon quotidien depuis plusieurs années. D'ailleurs, un objet, c'est vite dit. Aujourd'hui, c'est plutôt un outil, et même, je dirais d'une certaine façon, un compagnon. Je le déroule, je le coupe, je l'enroule, je le démêle, je l'enfile, je lui fais des nœuds, je crée avec, je répare avec, j'en retrouve partout, même dans ma douche. Vous l'avez sûrement deviné dans cette introduction, pour ce nouvel épisode de Chimère, j'ai décidé de vous parler de cet objet simple et pourtant si chargé d'histoire et de symbolique, le fil. Créer, imaginer, inventer, c'est génial, mais ça va avec plein de questions. Moi c'est Cyrine et je vous accueille dans Chimère, le podcast où on parle création, créativité, art, artisanat, sans réponse toute faite, sans mépris et sans chichi. Merci d'être là et bienvenue dans l'épisode du jour. Salut tout le monde! Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce premier épisode d'une série sur la broderie et les travaux d'aiguille. Alors, j'imagine que j'ai pas besoin de vous définir ce qu'est un fil, vous voyez tous à peu près ce que c'est, mais j'aime bien regarder les définitions pour ces objets du quotidien qu'on prend jamais le temps de définir parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Du coup, je suis allée voir et vous serez contente de savoir qu'un fil est un matériau long et fin composé de textiles et ou de matériaux métalliques. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cet épisode? Parce que moi-même, quand j'ai commencé la broderie, j'avoue que j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai pris mon fil, je l'ai enfilé dans l'aiguille et je me suis mise au travail, sans trop me poser plus de questions que ça. Et ce n'est que 3 ans plus tard, après des heures et des heures et des heures de broderie, après en avoir même fait mon métier, que je change mon regard sur le fil, ou plutôt que je prends le temps de le regarder et de me rendre compte de toute l'histoire, de tout l'héritage, de tous les symboles qu'il y a derrière ce matériau long et fin composé de textiles. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un épisode parce que si le fil est important pour moi dans ma pratique actuelle, je pense qu'on peut aussi, sans trop prendre de risques, dire que nous vivons tous dans un monde qui est fait de fil et que le sujet vous concerne tout autant que moi, peu importe les pratiques artistiques et artisanales que vous avez ou non. J'ai donc décidé de réunir pour vous tout ce que je sais des symboles du fil, des messages qu'il porte et des leçons qu'il donne. Et je suis quasiment sûre qu'à la fin de cet épisode, vous trouverez vous aussi que c'est un des plus beaux objets du monde. Alors je pense que je vais commencer cet épisode avec une symbolique qui ne surprendra personne, mais c'est un petit peu normal puisque je vais pas commencer par vous livrer le plus croustillant dès le début. Le fil, ça sert à faire des liens entre les choses, et on s'en sert au quotidien pour attacher des choses entre elles, pour les maintenir ensemble à l'aide de différents nœuds plus ou moins solides. Donc ça paraît assez évident, on s'en sert très régulièrement dans le quotidien, mais plus métaphoriquement, le fil c'est aussi le lien entre les gens, et il existe de nombreuses légendes, et je suis sûre que vous en avez quelques-unes en tête, ou des traditions autour du fil comme un liant entre deux personnes qui seraient réunies par le destin. Le fil, il accroche, il retient, il en serre, et puis des fois il se détend, il s'abîme et il se casse. Des fois on peut réparer le lien en recollant littéralement les morceaux, en faisant un nœud, des fois on ne peut pas. Le fil, il a cette particularité d'être à la fois un matériau extrêmement souple, extrêmement malléable, et en même temps c'est un matériau qui est quand même résolument bien solide. Alors bien sûr, il y a différents types de fils, il y a des fils plus ou moins épais, il y a des matériaux plus ou moins solides, mais il y a toujours cette ambiguïté avec le fil, parce que d'un côté, il est puissant, il peut attacher des choses entre elles, il peut les maintenir ensemble, il peut porter des fois des charges extrêmes par rapport à son propre poids, mais en même temps, il porte en lui une vraie fragilité. Et c'est cet équilibre toujours un peu vacillant qui en fait un objet qui est parfait pour parler de relations, qu'elles soient concrètes ou intangibles, donc qu'elles soient entre des objets ou qu'elles soient entre des personnes, entre des événements, entre des souvenirs. Et en parlant d'événements, d'expériences, etc., pour aller plus loin dans cette représentation du fil comme un liant, le fil en fait, il lie aussi des événements, des expériences et des souvenirs. Il représente un peu le temps qui passe et les événements qui s'enchaînent les uns après les autres pour écrire nos histoires respectives. On retrouve cette vision du temps qui s'écoule dans des expressions comme « au fil du temps » ou « au fil des ans », mais aussi dans la mythologie romaine avec la figure des Parques, qui sont 3 sœurs, et ce sont les déesses de la destinée. Pour représenter cette fameuse destinée, vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr d'un fil que les 3 sœurs vont filer. La première, Nona, elle crée le fil, c'est donc la naissance qui est représentée là. La seconde sœur, Décima, elle déroule le fil, et c'est le temps qui passe et la vie qui se déroule. Et la troisième sœur, Morta, vous le devinez, coupe le fil. Et bien entendu, c'est une métaphore de la mort. Cette image de ces 3 femmes qui déroulent le fil de la vie, elle est très connue et vous l'avez sûrement en tête, même sans connaître tous les détails sur les Parques ou la mythologie romaine. Et en même temps, l'image du fil, moi je trouve qu'elle est encore une fois très appropriée, parce que tout fil a un début et une fin. À mesure qu'on le déroule, il peut prendre différentes formes, il peut changer d'aspect, son extrême souplesse fait qu'on peut lui faire prendre à peu près tous les chemins qu'on veut, et inévitablement, il arrive un moment où on arrive au bout du fil, où soit il est déjà terminé quand on l'a dans les mains, soit on doit le couper pour terminer notre ouvrage. On retrouve aussi ce lien entre la vie, le temps qui passe et le fil avec l'expression « la vie ne tient qu'à un fil ». Et ça fait très clairement référence au parc dans la mythologie romaine. Avec cette image du temps qui passe, c'est plus uniquement des choses qu'on va lier ou des personnes qu'on va lier. Là, on va relier des événements entre eux, mais ça va aussi beaucoup plus loin que ça. C'est le fil qui les lie avec une certaine cohérence. Comme dans la vie, nos expériences s'enchaînent les unes après les autres, ben en fait, le fil maintient une unité dans nos histoires, un lien qui est plein de sens et qui rappelle deux expressions bien connues, le fil conducteur et le fil d'Ariane. Et pour continuer cette réflexion sur le fil, je vais revenir sur ce fameux fil d'Ariane, d'où ça vient. Certains d'entre vous ont un peu l'histoire en tête, et pour les autres, je vais vous donner quelques éléments. Aujourd'hui, le fil d'Ariane, c'est utilisé pour décrire un fil conducteur qui permet d'aller d'un point A à un point B. Mais à la base, tout ça vient d'un épisode, encore une fois, de la mythologie grecque, que je vais vous raconter brièvement. Alors l'histoire, elle se passe en Crète, où Minos, le roi de Crète, a enfermé son beau-fils, le Minotaure, dans un labyrinthe géant, designé par le fameux Dédale que vous connaissez au moins de nom, et il lui donne à manger toutes les 9 années 7 hommes et 7 femmes athéniens. Alors, pourquoi est-ce que Minos a un beau-fils qui est un Minotaure? Pourquoi il l'a enfermé dans un labyrinthe géant? C'est vraiment une autre histoire que je vais pas prendre le temps de détailler ici et qui est un peu glauque en toute franchise, donc voilà, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder de quoi il s'agit. Mais pour cet épisode, retenez juste que voilà, Minos, le roi de Crète, a enfermé son beau-fils le Minotaure dans un labyrinthe et il lui donne à manger toutes les 9 années 7 hommes et 7 femmes qui viennent d'Athènes. Et il y a une année où Thésée, le prince d'Athènes, se porte volontaire avec l'objectif de tuer le Minotaure. Voilà, il en a marre que son peuple se fasse massacrer toutes les 9 années, et il se porte volontaire pour aller tuer le Minotaure et mettre fin à cette histoire. En arrivant en Crète, il fait la rencontre de la fille de Minos, donc la fille du roi de Crète, Ariane, qui tombe amoureuse de lui et décide de l'aider parce qu'elle n'a pas envie qu'il meure dans le labyrinthe. Donc elle va voir Dédale, l'architecte du labyrinthe, elle lui soustrait des informations sur l'architecture de ce labyrinthe, comment il est organisé, et elle fournit toutes les infos qu'elle a récupérées à Thésée. Et pour lui donner toutes ses chances de pouvoir ressortir du labyrinthe, parce qu'il y a plusieurs difficultés, il y a déjà arrivé à tuer le Minotaure, et puis après il faut ressortir de ce labyrinthe qui n'est pas vraiment designé pour qu'on puisse en sortir facilement. Et du coup ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui donne un fil dont elle tient une extrémité, et Thésée prend le reste du fil, et à partir de là, il n'a plus qu'à dérouler le fil et s'en servir pour revenir une fois qu'il a tué le Minotaure. Donc je vous la fais courte, Thésée, il parvient à tuer le Minotaure, et ensuite, une fois qu'il a réussi, il parvient aussi à revenir à la sortie du labyrinthe grâce au fil d'Ariane. Cet épisode mythologique, il est très intéressant à étudier en termes de symbolique, surtout au niveau de tout ce qui tourne autour de l'objet du fil. Ici, le fameux fil qui est devenu depuis le célèbre fil d'Ariane, il fait le lien entre Ariane et Thésée, et matérialise aussi un lien amoureux qui existe entre les deux. Même si, petit aparté, la plupart des versions de cette histoire disent que par la suite, une fois sortie du labyrinthe et ayant pris la fuite avec Ariane, parce que bon, elle a quand même trahi son père pour le sauver lui, donc ils s'enfuient tous les deux, et ben en fait Thésée l'abandonne sur une île. Donc la symbolique du lien de l'amour entre les deux n'est peut-être pas la symbolique à retenir principalement de cette histoire. En revanche, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressantes. Le fil d'Ariane, il est souvent évoqué pour parler d'une métaphore du cheminement de la pensée. Je vous explique. Pour ne pas se perdre dans le labyrinthe, vous avez bien suivi, Thésée, il avance en déroulant le fil, du coup. Et quand il doit reculer parce qu'il arrive à un cul-de-sac ou qu'il décide de changer de trajectoire, en fait, il lui suffit de réenrouler le fil. De cette façon, le fil, il s'en mêle pas et Thésée, il se perd pas dans ses pas dans le labyrinthe. Cette gymnastique, en fait, de dérouler le fil et de l'enrouler de nouveau selon s'il avance ou s'il recule, elle est souvent comparée au cheminement de la pensée, avec des pas en avant et des pas en arrière, avec lesquels on peut remonter le fil, encore une fois, de sa propre réflexion. L'autre symbolique derrière cette histoire, c'est le fait que le fil d'Ariane amène à la liberté. De façon très concrète, bah, vous le voyez bien, Thésée, il peut sortir du labyrinthe de Dédale et donc être libre grâce au fil d'Ariane, mais en regardant l'histoire dans sa globalité, c'est aussi de cette façon qu'il va libérer son peuple qui ne sera plus sacrifié pour le Minotaure. En liant ces deux symboliques, il y a vraiment cette idée que le fil, en permettant de cheminer de façon cohérente et réfléchie, amène vers l'émancipation et la liberté. Et il y a vraiment cette comparaison à un chemin de pensée, à un chemin de réflexion, et c'est aussi une façon de dire que cette façon de réfléchir par petits pas, en avançant, en reculant si besoin, en revenant, en remontant le fil de sa pensée, si nécessaire, en prenant d'autres embranchements, c'est aussi une façon, quelque part, de s'émanciper et d'atteindre une certaine liberté. Cette idée de réversibilité, de plasticité que j'ai un peu introduite avec l'histoire du fil d'Ariane, c'est aussi une propriété du fil qui est très très importante. C'est-à-dire qu'avec le fil, ce qui est fait peut souvent être défait, et c'est une qualité qui est très très utilisée dans beaucoup d'histoires autour des travaux du fil. Une des plus connues, c'est celle de Pénélope, la femme d'Ulysse, que vous connaissez très probablement ne serait-ce que de nom parce qu'elle est extrêmement citée dans l'histoire d'Ulysse et qu'elle est représentée comme l'épouse parfaite par excellence. Donc pour remettre un petit peu de contexte, on parle quand même d'une histoire où son mari est absent pendant 20 ans, et pendant ces 20 ans, elle repousse tous les prétendants qui se présentent pour le remplacer, elle protège son fils Télémaque et elle s'occupe de son beau-père, donc le père d'Ulysse. Elle coche toutes les cases de la femme parfaite, écrite par des hommes, et même quand elle ruse, elle utilise la ruse dans l'objectif de rester fidèle à son mari. Donc bref, les années passent, son mari ne rentre toujours pas, et ça devient de plus en plus difficile de repousser les tonnes de prétendants qui affluent. Donc elle a une idée lors de la 16e année, où ça commence quand même à faire un petit bout de temps que son mari n'est pas revenu, et elle se met à tisser un voile pour envelopper le corps de son beau-père quand il décédera. Et elle déclare qu'elle ne se remariera qu'après avoir terminé son voile. Donc ça calme un petit peu la foule, et pendant que tout le monde attend patiemment qu'elle ait terminé son tissage, elle défait chaque nuit ce qu'elle a tissé dans la journée pour gagner du temps. Avec cette ruse, elle arrive à gagner 3 ans, au bout desquels une de ses servantes vend la mèche. Et bon, du coup, je vous passe la fin de l'histoire, mais Ulysse finit par revenir au bout de 20 ans. Il se débarrasse de tous les prétendants, et il retrouve sa femme et son fils. Ici, j'irai pas aussi loin dans la symbolique que pour le fil d'Ariane, mais je trouve que c'est très intéressant en fait d'avoir utilisé cette propriété pour l'intégrer à la ruse de Pénélope pour gagner du temps. Quand on travaille le fil, et d'ailleurs peu importe quel fil on utilise et quelle sorte d'artisanat on pratique, à part le couper, et donc changer sa longueur, on modifie jamais vraiment sa structure. En fait, on va le tordre, on va l'enrouler de certaines façons, et on va l'entremêler avec des motifs spécifiques, mais c'est en théorie toujours plus ou moins défaisable si on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait ou qu'on a envie de faire autre chose. On peut toujours revenir à un point antérieur comme on l'a vu tout à l'heure avec l'histoire de Thésée et du fil d'Ariane. Cette plasticité, c'est ce qui fait la puissance au final de ce matériau et au regard de tout ce que symbolise le fil par ailleurs, offre aussi peut-être un peu de souplesse à notre vision du monde, du temps qui passe et de ce qui nous lie aux autres. En tout cas, moi, c'est un lien que j'aime bien faire parce qu'on a quand même beaucoup cette symbolique du fil qui représente le temps qui passe, qui représente le lien entre nous et le monde, que ce soit nous avec des choses, que ce soit nous avec d'autres personnes. Et en fait, le fait que ce soit un matériau qui est extrêmement plastique, qu'on puisse tordre dans tous les sens et qu'on puisse toujours retordre d'une autre façon ou dérouler, redérouler, emmêler et puis défaire, je trouve que ça en dit long aussi sur le potentiel qu'on a d'explorer notre rapport au monde et d'avancer de la même façon que Thésée avance dans le labyrinthe, par petits pas, en laissant sa place au retour en arrière, avec l'espoir qu'à la fin de l'histoire, on pourra arriver à sortir du labyrinthe, parce que le fil ne nous quitte pas. J'avoue que c'est une image jolie que j'aime bien garder en tête, donc je vous la laisse aussi, c'est cadeau. Et puisque je parlais à l'instant de pratique autour du fil, j'aimerais bien vous emmener dans une autre réflexion. Certes, le fil a de multiples symboliques, mais ce qu'on en fait et comment on le fait a aussi toute son importance. Finalement, est-ce qu'on manie le fil seul? Est-ce qu'on le manie avec d'autres personnes? Dans quel but est-ce qu'on le travaille? Qu'est-ce qu'on a envie de fabriquer à la fin? Toutes ces questions, et bien entendu, les réponses qu'on a pour ces questions, elles posent toujours un cadre finalement à la pratique et elles lui donnent une dimension qui est bien particulière et toujours très unique. De mon côté, depuis que j'ai commencé la broderie, j'ai souvent brodé seule, quasiment tout le temps en fait, brodé seule. C'est pas souvent, c'est vraiment une grosse majorité du temps. Seule à la fois dans ma pratique, c'est-à-dire que je brode des œuvres personnelles auxquelles personne ne touche avant que j'ai fini, et aussi seule concrètement dans la pièce pendant que je brode. Ça m'est arrivé en fait de broder en présence d'amis ou de ma famille, mais c'est pas du tout représentatif au final de la majorité du temps que je passe à broder. Et honnêtement, moi ça m'a un peu toujours convenu, parce que pour être honnête, je trouve que c'est une activité qui appelle au calme et à la méditation, et moi j'en fais régulièrement bon usage, je trouve que c'est des moments que j'aime bien avoir chez moi dans le calme, où je peux me poser, me sortir un thé, faire de la broderie dans le calme, dans le silence, et laisser mon esprit vagabonder aussi quoi. Pour autant, même si je maintiens que voilà, ça, pour l'instant ça m'a quand même bien convenu cette pratique, j'ai eu l'occasion de broder en collectif au cours des derniers mois, pour un projet dont je vous parle très très bientôt dans un prochain épisode, et je dois avouer que ça m'a fait un petit peu aussi changer ma vision de la pratique. Pour vous dire très rapidement, mais je vous en parlerai un petit peu plus dans l'épisode dédié, pour ce projet j'ai eu l'occasion de broder avec un groupe de femmes une fois par semaine pendant quelques mois. On a commencé par broder sur un support commun, donc toutes sur le même tissu, et puis plus tard, on a travaillé sur des œuvres personnelles, tout en se retrouvant quand même à la même heure toutes les semaines pour nous pencher sur nos ouvrages. Et même sans broder sur le même support, je me suis rendu compte lors de ces ateliers de la magie qui s'opère un petit peu dans ces moments où on travaille tout ensemble le fil. Pour moi, c'est un peu devenu le moment de tout. C'était le moment d'être timide, d'être audacieuse, de parler, d'écouter, de partager, de rire. C'était aussi des fois le moment de se taire, des fois c'était le moment de pleurer, et des fois c'était le moment de se rassurer. Et je pense que j'ai même pas fait la liste de tout ce qui a pu se passer dans ces sessions de broderie communes. Et bizarrement, je trouve que chacune prend un petit peu sa place en fonction de ce qu'elle a à offrir ce jour-là. Donc à chaque séance, en fait, on n'avait pas forcément les mêmes comportements, on n'avait pas forcément les mêmes choses à partager. Et en fait, tantôt on rit, tantôt on pleure, tantôt on écoute, tantôt on se confie. Mais peu importe l'état d'esprit dans lequel on arrive, en tout cas, tout le monde est là et partage ce moment unique. Et du coup, ça me donnait envie de vous parler d'un petit truc, c'est qu'en faisant mes petites recherches sur les expressions autour du fil, je me suis penchée sur une que vous avez déjà entendue, c'est « de fil en aiguille ». Alors de fil en aiguille, ça signifie passer d'un propos à l'autre sans coupure. Et il y a cette idée, en fait, dans cette expression du mariage entre le fil et l'aiguille pour coudre, broder, tisser, etc. Et l'expression, elle évoque une espèce de succession sans rupture. Donc en fait, on va parler d'un sujet, après on va sauter à un autre. Puis en fait, de fil en aiguille, on va arriver à de plus en plus de sujets. Si bien qu'à la fin, au final, il n'y a pas forcément de lien entre le premier sujet dont on a parlé et le dernier. Mais quand on regarde l'acheminement, on se rend compte que voilà, on a sauté d'un sujet à l'autre et que la discussion s'est poursuivie sans rupture. Donc ça concorde un petit peu avec tout ce qu'on a dit sur le fil et sur cette idée d'enchaînement, de succession cohérente de mille et une choses qu'on peut se dire, qu'on peut vivre, etc. Dans le même genre d'ailleurs, on dit bien perdre le fil pour dire qu'on a perdu ce dont on parlait, qu'on s'est même en fait soi-même perdu dans la discussion. Et du coup, en faisant mes recherches, j'ai trouvé une proposition de contexte historique pour cette expression. Et alors, je vous le dis tout de suite, je sais pas du tout si elle est vraie. Moi, je me méfie un peu de ces trucs-là quand c'est pas trop sourcé et que ça tombe très très bien. Mais je vous en parle quand même parce que, quand bien même elle serait fausse, moi je trouve qu'elle vaut le coup de s'arrêter dessus. Alors, selon cette proposition d'explication, de fil en aiguille, l'expression proviendrait d'un temps où les femmes se réunissaient pour coudre ensemble, donc souvent des femmes de la même famille ou de la même rue, du même quartier, etc. Et elles se réunissaient et elles discutaient entre elles en passant d'un sujet à l'autre sans s'arrêter. Ces discussions et le contexte dans lequel elles se produisaient auraient donné cette expression de fil en aiguille. Alors encore une fois, j'ai aucune idée de si c'est vraiment historiquement vérifié, mais si je vous en parle, c'est que vrai ou non, cette expression pour moi elle décrit parfaitement les moments que j'ai vécu à broder avec d'autres femmes dans le cadre de ce projet. Et je pense qu'il y a quelque chose de spécial à cette pratique. Le fait, en fait, de travailler ensemble, de se poser sur son ouvrage. Et en fait, au final, moi, ça me fait penser un petit peu à l'espace de la cuisine, dans le sens où ces moments où on travaille le fil, c'est bien souvent des moments de non-mixité, où les langues vont se délier, où celles qui parlent moins, ou qu'on n'écoute pas forcément, en fait, à l'extérieur, bah, là, elles peuvent se faire entendre. Et où le fait d'avoir les yeux concentrés sur ce qu'on fait permet d'instaurer un cadre peut-être un peu plus pudique, moi je trouve en tout cas, où c'est plus facile de parler et d'écouter. Parce qu'en fait, on est tous occupés à ce moment-là, on est tous à regarder notre ouvrage, à se concentrer sur ce qu'on fait, à ce qui se passe entre nos doigts, mais en fait, ça ne nous empêche pas de parler ou ça ne nous empêche pas d'avoir les oreilles grandes ouvertes pour écouter ce qui va se passer. Et en fait, quand on est la personne qui parle, on n'a pas forcément le poids de tout le monde qui pose son regard sur nous. On peut le faire, en fait, on peut lâcher un petit peu ce qu'on a à dire, le poser sur la table, et puis en fait, soit les gens répondent, soit les gens juste écoutent, soit les gens lèvent la tête et réagissent. Et du coup, ça permet d'instaurer quand même un contexte extrêmement intime dans lequel, par ailleurs, en fait, on est toutes concentrées sur ce qu'on fait et de l'extérieur, ça peut paraître extrêmement individuel. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu après avoir tenté l'expérience de broder à plusieurs. Et depuis, je l'ai déjà fait, par exemple, avec des amis, se retrouver pour broder ou pour faire d'autres... voilà, chacun sur ses travaux différents. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette ambiance particulière de « je suis concentrée sur ce que je fais, mais mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est ouvert, moi je peux peut-être dire ce que j'ai à dire, ce que j'ose peut-être pas dire quand on est dans une discussion, on se regarde dans les yeux. La personne peut-être qu'elle aussi, là c'est le moment où elle a envie de parler. » Et du coup, ça permet des partages qui sont extrêmement intimes et qui posent aussi un cadre où des gens qui ne parleraient peut-être pas forcément dans un autre contexte, bah là, ont la possibilité de le faire. Pour moi, pratiquer ensemble, c'est aussi créer une forme de cohésion dans des gestes qui sont purement individuels, parce que même au final, quand on brode ou quand on tisse ensemble ou que sais-je, il y a ce truc où même si on travaille sur le même support, bah en fait, on travaille sur une œuvre commune. Et même à la limite, quand on travaille chacun sur nos ouvrages respectifs, il y a vraiment une cohésion de groupe qui se crée, où on finit par partager des choses hyper fortes avec les personnes qui travaillent en même temps que nous. Et je trouve que c'est un moment qui est finalement très particulier, dans lequel beaucoup de choses se jouent. D'ailleurs, traditionnellement, les techniques du fil, elles sont apprises quand même dans la sphère domestique, par transmission donc intergénérationnelle dans la famille, donc des aînés aux plus jeunes. Et il existe aussi des traditions qui impliquent de travailler le fil collectivement, par exemple pour des événements importants ou des fêtes où on va travailler sur le même support et s'identifier à un groupe, le groupe qui va créer ensemble ce support-là. Les pratiques autour du fil, du coup, elles démarrent souvent dans la sphère domestique parce qu'il y a quelque chose à réparer, parce qu'il y a quelque chose à arranger, il y a un ourlet à faire, un trou à reboucher, etc., etc. Mais je trouve que souvent, ces pratiques, elles sortent très rapidement de la sphère domestique parce qu'on va commencer à explorer, on va commencer à créer. Et là, on n'est plus sur juste faire un ourlet ou reboucher un trou, même si on peut faire ces choses, c'est pas du tout, je ne critique pas du tout ça ou je ne dénigre pas du tout ça par rapport à d'autres pratiques qu'on peut avoir avec le fil. Mais en fait, même quand on rebouche un trou, on n'a pas tous et toutes la même façon de le faire, on n'a pas la même façon de travailler le fil. Et je trouve que du coup, très rapidement, on sort en fait de cette sphère-là pour arriver à une sphère vraiment d'exploration personnelle et de création. Et ça m'amène du coup au dernier gros point que j'avais préparé pour vous. Donc avant de conclure cette plongée dans l'univers du fil, j'avais envie de parler du fait que le fil, c'est aussi une porte d'entrée vers l'exploration et la création. Pour moi, de mon expérience et aussi de tout ce que j'ai pu en discuter ou en lire, le fil, c'est vraiment une porte d'entrée pour l'exploration de soi, l'exploration du monde et la création de récits, de messages qu'on a envie de transmettre. Alors pour vous éclairer sur cet aspect, j'aimerais vous citer un extrait de Michel Serre dans Les Cinq Sens. Donc j'ai décidé de garder l'extrait tel quel parce que j'aurais pu le paraphraser, expliquer sa pensée, mais je pense que j'aurais un petit peu trahi son discours si je m'étais aventurée à le faire. Donc je vous donne la citation telle quelle. Donc il écrit dans Les Cinq Sens « Le tisserand, la fileuse, Pénélope ou autre, m'étaient jadis apparus comme les premiers géomètres, parce que leur art ou leur artisanat explore ou exploite l'espace par nœuds, voisinage et continuité, sans nulle intervention de la mesure, parce que leur manipulation tactile anticipe la topologie. Le maçon ou l'arpenteur devance les géomètres au sens étroit de la métrique, mais celle ou celui qui tisse ou file les précède dans l'art, dans l'idée, sans doute dans l'histoire. On a dû s'habiller avant de bâtir, se vêtir flou avant de construire en dur. » Fin de citation. Alors ce qui est dit ici, entre autres, c'est que finalement, en travaillant le fil, de quelque façon que ce soit, on appréhende aussi l'espace comme on découvrirait finalement une terre qu'on ne connaît pas. On y va pas après pas, on prend le temps de comprendre l'espace dans lequel on se trouve et on s'applique à chaque étape. Une fois encore, le fil, ou ici le travail du fil au final, parce qu'on parle beaucoup de, voilà, de personnes qui tissent ou de fileuses, c'est rattaché à ces idées d'émancipation, d'exploration et de liberté. Et moi, je suis vraiment persuadée, et j'en ai parlé plusieurs fois, et j'en avais parlé notamment dans les épisodes autour de la broderie et de mon histoire à travers la broderie et de comment ma pratique elle a évolué. Moi, il y a vraiment un truc qui a transformé ma pratique au bout d'un moment, c'est cette idée que je pouvais raconter des histoires aussi avec la broderie. Et ce jour-là, en fait, c'est vraiment le jour où je suis sortie de la technique pour aller un peu plus loin dans mon appréciation et mon appropriation de cette pratique. Et pour moi, c'est hyper important de comprendre qu'il y a vraiment un sens derrière toutes les pratiques autour du fil, tout le travail du fil. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais même quand on rebouche un trou sur un t-shirt ou un pantalon, ou même quand on fait un ourlet, au final, on a une façon aussi qui est extrêmement personnelle d'aborder ce rapport entre le tissu et le fil et de faire communiquer les deux pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé à la base. Et encore une fois, je reprends la citation que je viens de vous lire, il y a vraiment cette idée que voilà, avec le fil, on peut aussi explorer l'espace en gardant une continuité dans ce qu'on fait, dans comment on réfléchit, dans comment est-ce qu'on envisage les choses. Parce que comme, encore une fois, avec Thésée, le fil d'Ariane, on est relié en fait à l'entrée du labyrinthe par ce fil qu'on déroule, qu'on réenroule quand on s'est trompé ou quand on a envie de changer de trajectoire. Et c'est une façon pour moi très intéressante aussi de voir comment est-ce qu'on peut explorer le monde, explorer la vie et tirer ce qu'on a à tirer de chaque expérience qui s'enchaîne dans ce long fil de la destinée. Pour finir cet épisode sur lequel j'ai adoré travailler, et j'espère que vous avez adoré autant que moi j'ai adoré le faire, en tout cas je pense que maintenant on est tous d'accord pour dire que le fil c'est un objet qui est extrêmement intéressant. Déjà quand on y pense, il est quand même à la base de beaucoup de choses qui font notre quotidien, on s'habille tous, on a tous du textile autour de nous, et symboliquement il est quand même chargé de beaucoup de sens et de beaucoup de promesses. Le fil, il crée du lien entre les choses et les gens, il attache, il accroche, il retient, et des fois il laisse partir quand il le faut. Le fil, il répare aussi, il cache, il va protéger, c'est quand même la base des textiles qui font notre quotidien, les vêtements, les linges, les couvertures. les rideaux, etc., etc. Mais le fil, il donne aussi du sens et il raconte des histoires. Il permet aussi d'explorer le monde qui nous entoure, pas à pas, et de s'approprier nos propres expériences. Enfin, le fil, il permet aussi de parler, d'échanger et de se connecter aux autres, de faire commun via la pratique. Parce que voilà, comme je vous ai dit, le fil, il y a beaucoup de symboliques qui sont intrinsèques à l'objet en lui-même, mais il y a tout aussi la pratique du fil, autour de laquelle s'organisent aussi beaucoup de choses. Et la pratique du fil, elle crée vraiment des espaces qui sont hyper particuliers et qui méritaient tout à fait que je parle d'eux dans ce podcast. Je vais terminer cet épisode sur une dernière expression qui est très intéressante, celle de dérouler le fil. Et dérouler le fil, ça signifie tout simplement expliquer, rendre plus clair. Et je voulais terminer avec cette expression parce que je pense que le fil, c'est vraiment un objet qui permet un jeu entre le visible et l'invisible. Tout simplement parce qu'il rend accessible et compréhensible ce qu'il dessine sous les mains de celles et de ceux qui le manient. Donc finalement, c'est aussi un jeu entre nous et le matériau. Entre nos mains, le matériau va prendre diverses formes, et avec ces formes-là, on va pouvoir rendre visible, rendre accessible et compréhensible des choses qu'on n'arriverait peut-être pas, en fait, à dire, à montrer, à expliquer sans ça. La pratique du fil, elle apporte aussi beaucoup d'apaisement. Ça, j'en ai aussi pas mal parlé déjà, mais je tiens à le redire, parce que c'est souvent des gestes qui sont quand même assez lents, assez fins, assez précis et assez répétitifs. Et ils permettent bah, du coup de faire le vide aussi un petit peu dans sa tête et de clarifier les choses. Les travaux d'aiguille, c'est un espace qui est pour moi parfait pour se concentrer, pour nettoyer son esprit et aussi surtout pour éclairer ses pensées pendant qu'on se concentre sur le fil qui se déroule et qui s'entremêle entre nos doigts. Et en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc, encore une fois, un peu magique qui se passe où le fil prend n'importe quelle forme qu'on veut lui donner sous nos doigts. Et en attendant, pendant qu'on est concentré sur quelque chose de vraiment très purement matériel, il y a aussi quelque chose qui se passe dans l'air, autour de nous, des fois en nous quand on est tout seul, qui est certes intangible, mais qui n'en est pas moins transformateur. Quand j'ai commencé la broderie, j'avoue que, je vous l'ai dit en introduction, moi j'ai pris un petit peu le fil comme j'aurais pris n'importe quel matériau. Je l'ai pris comme un simple outil que j'allais pouvoir façonner un peu comme je voulais et que j'allais utiliser pour créer ce dont j'avais envie. Aujourd'hui, je réalise que ce matériau a beaucoup plus à apprendre et à donner, au final, que ce que je pensais. Et j'ai hâte de l'explorer encore plus à l'avenir et j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai prévu pour le reste de l'année en jouant avec le fil. J'espère que cet épisode vous a fait aimer le fil au moins autant que moi, j'espère en tout cas qu'il aura bien honoré le fil à vos yeux. Je sais que certaines d'entre vous manient aussi le fil, que ce soit d'une façon ou d'une autre, peut-être pas à la broderie mais par d'autres pratiques. Et si c'est le cas, j'espère que vous avez aimé écouter cet épisode qui honore aussi finalement nos pratiques. Sur cette jolie conclusion, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode où je vais encore vous parler broderie et fil. Préparez-vous. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à en parler autour de toi aux personnes qui auraient besoin d'entendre ces mots. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut !